Bon, on va parler d'une micronation sans lieu ni loi, Louis Bernis.
Ouais. Oui, du côté de l'Italie, dans les années 60, je vous parle d'un rêve rêve qui a duré quelques temps et qui s'est évanoui. C'était au large de Rimini, sur la côte nord de l'Italie, dans les eaux translucides de l'Adriatique. Et c'est une utopie qui a flotté l'espace de quelques instants. Une île née de l'imagination d'un ingénieur bolognais qui a été construite à la sueur d'une poignée d'hommes et qui a finalement été détruite par l'État italien. Voici la petite histoire de l'île de la Rose, cette micronation audacieuse qui, en 1968, a tenté d'exister. Imaginez-vous donc 1968 à bord d'un petit bateau tanguant doucement vers les vagues. Dans les vagues, à mesure que la côte de Rimini au nord de l'Italie disparaît derrière vous, une silhouette un peu étrange surgit à l'horizon. Une plateforme de béton posée sur des échasses d'acier, un mirage flottant à 11 km de la terre ferme, des drapeaux qui claquent au vent, des jeunes qui rient autour d'un bar en bois, des discussions se font en espéranto et dans l'air flotte un parfum de rébellion. L'île de la Rose, ou en espéranto Insulo de la Rosoge, n'est pas un décor de science-fiction. Elle est le fruit du labeur de Giorgio Rosa, un ingénieur de Bologne, né en 1925, esprit brillant, anticonformiste, qui rêvait d'un monde libre, tout simplement. Son histoire a d'ailleurs été adaptée par le réalisateur Sidney Sibilia en 2020 avec le reportage « L'incroyable histoire de l'île de la Rose ». À 42 ans donc, Giorgio Rosa était un homme au caractère entier, précis, jusqu'à l'obsession parfois, avec une étincelle de folie douce. Ce n'était pas un politicien ni un artiste, c'était un bâtisseur. Et en 1967, il se lance dans un projet un peu insensé. Construire une île en dehors des eaux territoriales italiennes, là où la loi ne s'applique plus, avec une poignée d'amis et d'ouvriers. Il imagine donc une plateforme soutenue par des tubes d'acier remplis de béton et ancrée à 26 mètres sous l'eau. Il a même dû déposer un brevet pour sa technologie. C'était quand même très sérieux le projet derrière tout ça. 6 mois plus tard, ça a pris du temps avant de construire, l'île existe enfin. Elle fait 400 mètres carrés, elle dispose d'un restaurant, d'un bar, d'une boutique de souvenirs et même d'un petit bureau de poste. Rosa fore même un puits à 280 mètres de profondeur pour en tirer de l'eau douce et ainsi pouvoir vivre convenablement sur cette plateforme. Il proclame son indépendance le 1er mai 1968, crée sa propre monnaie, ses armoiries, choisit l'espéranto comme langue officielle. L'ingénieur devient alors président, ou plutôt roi, de son royaume flottant. L'île n'est pas seulement une prouesse technique, c'est aussi un symbole. En plein tumulte de mai 68 qui a parcouru l'Europe et le monde, elle devient le refuge des idéalistes, des rêveurs, des jeunes en quête d'ailleurs. Ceux qui accostent sur la plateforme trouvent un lieu sans règles, sans impôts, sans papiers à montrer. On y discute politique, on y joue de la guitare, on y boit, on y espère. Les couchers de soleil, il faut les imaginer, ils sont assez spectaculaires. Quand vous avez le ciel qui se déploie à 360 degrés autour de vous, l'Adriatique prend des teintes émeraudes et la liberté a le goût du sel à cet endroit. À 7 ans seulement, Lorenzo Rosa, le fils de Giorgio, se souvient de ces moments comme de moments magiques. Le frisson de l'aventure, la fierté d'un père qui, entre deux chantiers, construisait un monde nouveau plein de possibilités. Mais cette expérience de liberté pure inquiète les autorités. Très vite, le gouvernement italien y voit un affront. On parle de fiscalité évitée, de débauche, de jeux d'argent, de drogue, et même, comble de l'absurde, on va jusqu'à propager des rumeurs de sous-marins soviétiques cachés sous la plateforme, tout simplement, en cette période de guerre froide. L'île devient un peu l'ennemi public numéro un pour les autorités.
Mais c'est souvent le cas de ce genre d'argument.
Il faut trouver une raison, un argument.
Parce que derrière ça, il y a toujours... Moi, je pense toujours au réel de toutes les sectes religieuses. Mm-hmm. Ça finit toujours par le roi ou le gourou qui a toutes les femmes. Bon, voilà, je te laisse continuer.
En tout cas, le 24 juin 1968, le jour de la Saint-Jean, ici au Québec, 55 jours après la déclaration d'indépendance, la marine italienne finit par intervenir. Il y a un blocus, une évacuation, des menaces menace aussi. Tout cela traîne encore quelques mois. Le 11 février 1969, l'armée revient avec des explosifs cette fois-ci. Il n'y a plus personne. Ils bombardent l'île à deux reprises et une tempête hivernale finit par emporter ce qui reste de la plateforme. Le rêve alors de Rosa sombre dans les profondeurs. Et comme si cela ne suffisait pas, l'État lui envoie aussi une facture après pour la destruction de son œuvre. 11 millions de lire italiennes. C'est l'ultime humiliation pour Giorgio, qui n'oubliera jamais, il n'en parlera plus. Aujourd'hui, les vestiges de l'île de la Rose reposent au fond de la mer Adriatique. Il a seulement une brique récupérée par des plongeurs qui est exposée chez Lorenzo Rosa. On peut y lire dessus « Les plongeurs de Rimini sont honorés de restituer un fragment de rêve à un rêveur ».
Waouh, bon, c'est une belle conclusion.
Oui.
On parlait de chiens.
Oui, chiens et un petit chien. C'est pas parce qu'ils sont...
Les petits chiens, eux, quand ils se voient comme des Doberman, comme des gros chiens.
Eh bien, c'est effectivement peut-être le cas. Un petit chien qui a sauvé une âme, sauvé un homme, son maître. Un chihuahua, peut-être l'un des plus petits chiens qui existent, qui a sauvé son propriétaire. C'est en Suisse que je vous emmène. Et en matière de sauvetage de montagne, on pense peut-être plutôt au Saint-Bernard, hein, ces énormes chiens qui y interviennent. Eh bien, ils ont de la concurrence désormais, puisque un chihuahua a aidé des sauveteurs à retrouver son maître. Cette opération de sauvetage un peu extraordinaire s'est déroulée il y a 2-3 semaines sur un glacier au-dessus de Saas Fee, a indiqué dans un communiqué Air Zermatt, une société de sauvetage aérien qui opère dans le canton du Valais. L'homme se promenait sur un glacier, le glacier de Fee, avec son petit chien un début d'après-midi, lorsqu'il est soudainement tombé, le pauvre, dans une crevasse d'environ 8 mètres de profondeur, c'était sérieux. Son fidèle compagnon, lui, un petit chihuahua, a eu plus de chance et est resté au bord de la crevasse. Il est resté en place, sans bouger, jusqu'à l'arrivée des sauveteurs, ce qui a probablement sauvé sa vie. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que l'homme tombé, 8 mètres plus bas, disposait seulement d'un petit talkie-walkie amateur pour envoyer des messages de détresse. Par chance, une personne qui se trouvait non loin a capté des appels d'urgence, a cru entendre qu'il se passait quelque chose. Cette personne a alerté les secours. L'équipe de sauveteurs, une fois arrivée sur le glacier, il faut s'imaginer, c'est une grande étendue blanche. On ne sait pas du tout où peut se trouver le trou, hein, qui fait quelques centimètres simplement de circonférence. Il cherche à droite, à gauche, lance des regards. Et là, eh bien, il voit la petite boule de poils sagement assise sur un caillou qui les attendait. Eh bien, c'est probablement grâce à ça qu'ils ont non seulement sauvé de précieuses heures, hein, qui auraient pu s'avérer fatales, mais ils ont pu se diriger vers le trou facilement. Le chihuahua n'a pas bougé et ils ont pu extraire l'homme et emmener les deux personnes en hélicoptère à l'hôpital. Il y a des photos qui circulent du petit chihuahua sagement assis, fièrement sur son rocher qui attend les secours. Et donc voilà, son maître qui lui doit la vie sauve grâce à son calme et à sa détermination.
Cela avait été Gustave, mon terrier, mon petit Yorkshire. Non seulement le walkie-talkie, mais il aurait aussi remplacé le walkie-talkie. Gustave adore japper. Il trouve que c'est une activité très, très, très intéressante. Et je crois qu'on l'aurait entendu des kilomètres à la ronde. Voilà. Merci beaucoup, Louis de Vernis.
Avec plaisir.